RMC. Buzzer Time. Buzzer Time.
Qu'est-ce qu'il va ?
Les news Jeep Elite.
Alors on va parler du cas Samardo Samuels, mais d'abord j'accueille Cyril Méjeanne qui a une info exclusive RMC Sport à vous donner.
Je dis, mais qu'est-ce que tu fous là depuis tout à l'heure avec le cas sur les oreilles?
Alors, vous savez que DJ Cooper a été suspendu par la FIBA pour un cas de dopage, on n'en savait pas plus, c'est toi qui vas nous apporter des précisions. Quel est ce cas exactement?
Alors il est pour l'instant suspendu jusqu'en juin 2020 suite à un contrôle positif à la gonadotrophine chorionique, donc c'est une hormone qui est d'habitude trouvée chez les femmes enceintes et de temps en temps chez les hommes. Mais si on trouve ça chez les hommes, c'est pour plusieurs hypothèses. C'est une bonne mauvaise nouvelle, c'est sûr. C'est ou parce que c'est un produit dopant et stimulant, ou parce qu'on a un cancer des testicules. Sauf que vu qu'il a été suspendu, DJ Cooper n'a pas un cancer des testicules. Ça a dû être, il y a dû y avoir en fait des tests qui ont été faits avant le, après le test de la FIBA. Et puis ce soir, donc dans Buzzer sur RMC Sport 2, on va vous parler de ce cas en détail, puisque selon nos informations, en fait DJ Cooper serait totalement fan, on va dire, serait totalement accro, serait un consommateur régulier de cannabis. Donc on aura plus d'infos ce soir dans l'émission.
Comme beaucoup.
Et puis surtout, comme beaucoup de joueurs.
Oui.
Mais quel rapport avec l'hormone
Parce qu'il a utilisé l'urine,
c'est pas son urine.
Alors,
en fait,
donc il aurait substitué l'échantillon donc par une urine féminine.
En fait, il y a deux hypothèses. La première, en fait, c'est qu'il serait servi de cette urine en tant que produit dopant et anabolisant. Et la deuxième, en fait, c'est qu'il aurait utilisé une autre urine, une urine de femme.
C'est la première hypothèse, c'est-à-dire qu'il a avalé de l'urine, et c'est ça. Non, il aurait pensé à ça aussi.
Il aurait pris l'hormone.
Alors, il y a eu un petit bug dans ta phrase, Cyril. On a tous compris qu'effectivement, il avait pris de l'urine pour se doper. Hein.
Non, il aurait pris l'hormone. Il aurait pris l'hormone, en fait.
Mais tu réécouteras ta phrase, t'as dit urine, un peu d'hormone. Bon, bref, c'est pas si drôle parce que c'est quand même un cas bon de suspension.
Et donc, la deuxième hypothèse,
Et la deuxième hypothèse, en fait, c'est qu'il aurait pris une autre urine lors des contrôles pour dissimuler justement cette consommation régulière de cannabis.
Très bien. Donc...
Heureusement qu'il n'a pas utilisé l'urine de Pierre Dorian, hein, parce que là il aurait pris 8 piges.
Oh, un peu de cholestérol éventuellement, mais pas beaucoup d'autres choses dangereuses. Hein. Merci Cyril. On le détaille dans Buzzer tout à l'heure. RMC Sport 2, 22h30. L'actu de la Jeep Elite. Eh bien, on va parler de Limoges aujourd'hui. On va parler du plus grand club français. On est d'accord?
Le club de cœur de Fred Weiss.
Non mais
David, en fait, je me le fais à chaque fois, c'est ça? À
David,
chaque fois,
petite parenthèse. Parce que en écrivant, tu vois, mon introduction, je me suis dit bon, comment on va le vendre ce sujet? Bah, c'est le plus grand club français quand même. Est-ce que c'est le plus grand club français Limoges?
Villeurbanne a le plus grand nombre de titres de champion de France, mais Limoges et d'ailleurs c'est leur slogan même. C'est le premier club champion d'Europe avant même l'OM. C'était un mois avant l'OM, tout sport confondu. Et ça, personne ne pourra jamais le enlever. Et je pense qu'il va se passer quelques siècles avant qu'il y ait un autre club français qui remporte l'Euroleague. Donc rien que pour ça, ils ont été au sommet du basket européen.
C'est quand même un club mythique du sport
et
français.
Et ils font partie, en plus, Pierrot, ils font partie des très rares clubs. Il y en a très peu qui ont remporté toutes les Coupes d'Europe. Alors après, il y a eu plusieurs noms différents, mais en gros, qui ont remporté la C1, la C2 et la C3. Et il y a eu très peu de clubs qui ont fait ça, même parmi les plus grands.
Mais Limoges, tu pars en vacances au bout du monde, tu rencontres des gens, tu leur parles de Limoges.
Genre le CSP basket. Limoges basket.
Le rayonnement qu'a eu Limoges, aucun club, autre club français a pu l'avoir en Europe complètement.
Mehdi, t'es passé par Limoges, c'est ton club, non?
Ouais, exactement.
Ton club de cœur?
Les deux dernières années.
Mehdi Marie, je vous rappelle notre invité qui nous racontera la préparation du Utah Jazz. Alors, l'actualité de Limoges, bah, c'est ce choix qu'a fait le club, qui avait un dilemme à trancher. Le meilleur joueur de l'équipe, Samardo Samuels, se comporte mal, voire très mal. Il parle mal à son coach. Il insulte son coach Kyle Meaning. Et du coup, il est suspendu. Alors, dans un premier temps, il est suspendu, on ne sait pas quel va être son avenir, s'il va être définitivement viré ou pas.
Procédure, il respecte la procédure de licenciement.
Et il est réintégré au bout de 3 semaines. Il a joué ce week-end et donc, on va repartir comme si de rien n'était, en gros. Hein. Quelques détails sur l'affaire. Il a fait quoi exactement? Est-ce qu'on sait ce qu'il a dit à son coach?
Il a lâché un fuck off à Kyle Meaning lors d'un temps mort au match du Portel.
Alors qu'il l'avait déjà fait une première fois en préparation face à Orléans.
Sauf que ça n'était pas sorti à l'époque.
Non, ça n'était pas sorti.
C'est quand même une grosse différence. On va pas traduire fuck off. Hein.
Alors, on sait que les clubs de Jeep Elite roulent pas sur l'or. On sait que trouver des joueurs de ce calibre, c'est pas aisé, surtout quand la saison a démarré. Est-ce que pour vous, Limoges a pris la bonne décision ou est-ce que c'est un peu faiblard, entre guillemets, de la part de la direction Limoges?
Je pense pas que ce soit faible, je pense que c'est pragmatique. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils ont besoin de lui, ils savent qu'ils ont besoin de sa présence sous le cercle, ce que peut pas forcément apporter, on l'a vu sur les derniers matchs, les deux autres pivots, Mame Jaïté et Géry Boutiélé. Et après, il y a un autre versant, on peut poser la question, si à chaque fois qu'un joueur insulte son coach, je sais, c'est pas bien, c'est pas du tout qu'on valide ça, mais il n'empêche que c'est déjà quand même arrivé un paquet de fois. Et au bout d'un moment, je pense qu'il y aurait certaines équipes qui finiraient la saison à 4. Donc c'est ça le truc.
Ah, carrément.
Après, je pense qu'on en a parlé.
Ça arrive régulièrement. Un fuck-off qui part comme ça.
Dans chaque équipe.
Ah, par exemple, Stephen, dans ta carrière, t'en as lâché combien à tes coachs?
Pas des fuck-offs, parce que je parle français.
Oui, mais bon, l'équivalent.
J'ai lâché des...
Tu me casses les couilles, des trucs comme ça, quoi.
Ferme ta gueule.
Au coach?
Oui, bien sûr.
Mais vous êtes marré dans ce sport, là, ça.
Ce que tu ne comprends pas, c'est qu'au basket, le cœur, parfois, est à 220. C'est pas une entreprise comme les autres. Alors, effectivement, les gens qui travaillent chez eux, se disent, si j'ai ça, mon patron, je me ferai virer. Oui. Sauf que là, ça n'a rien à voir. On est dans des conditions extrêmes.
Oh, tu viens de faire 5 allers-retours. Tu viens de faire en mort. Le coach, il met une abonnée. Tu peux lâcher un petit ferme ta gueule. T'es pédard.
T'as pas la possibilité physique de prendre sur toi à chaque
mental
fois.
Mental aussi. C'est les nerfs qu'il faut maîtriser.
C'est compliqué.
Parce que le coach, il peut pas se prendre un ferme ta gueule toutes les deux minutes.
Mais
en plus,
c'est pas ce qui se passe non plus. Justement, c'est pour ça qu'il y a eu une sanction. Ça n'arrive pas tout le temps.
Est-ce que Limoges a pris la bonne décision, Fred?
Limoges, je rejoins complètement David, a pris une solution pragmatique.
C'est dommage ou pas? Est-ce que
non, je pense qu'il a été sanctionné.
Est-ce qu'on aimerait avoir des clubs un peu plus puissants financièrement qui puissent se permettre d'être plus fermes dans ce genre de cas?
Après, et tout le monde a le droit de faire une erreur.
Cette situation-là, elle se passe au Barça ou au Real Madrid, Savardo Samuel, il dégage. Parce qu'ils ont les moyens de trouver un autre joueur.
Ils ont les moyens d'aller de se la jouer au prud'homme et de voir si c'est eux qui gagnent. Je suis d'accord. Sauf que dans ce cas de figure, David a raison. C'est un joueur qui peut apporter énormément sur le marché. Il n'y a pas d'autre joueur à ce tarif-là qui puisse apporter autant. Et en même temps, le mec a tout fait. Il s'est excusé publiquement. Ben voilà, il a fait une erreur. Il a été sanctionné.
Après,
et voilà.
David, si le club envisage de le licencier, c'est quoi les possibilités en fait? Ils doivent payer la rupture du contrat. Ils peuvent recruter.
Faut qu'ils arrivent à prouver qu'il y a une fraude grave avec des témoins, monter un dossier, etc. Après, c'est.
Ils peuvent recruter dans l'immédiat comme un joker médical entre guillemets ou pas?
Ça va leur compter comme contrat. Nouveau contrat, t'as droit à 16 contrats professionnels.
Donc, ils sont déjà à 16 et qu'ils coupent Samardo Samuel.
Ils peuvent pas recruter, mais ils étaient pas à 16 déjà.
D'accord.
Oui, parce qu'en fait, ils ont aussi d'autres dossiers en cours potentiels. On ne sait pas si le jeune meneur, qui probablement un jour, Stephen le disait hier à l'antenne, sera très fort, mais qui pour l'instant patauge quand même pas mal dans la semoule, si jamais il n'arrive pas à grandir, à mûrir, à être plus intense, à être tout simplement plus efficace, ça pourra, je dis bien, ou ça pourrait au conditionnel, devenir un dossier. Donc s'ils ont déjà ce souci avec Samardo Samuel, est-ce que ça leur coûte de l'argent ou que ça leur coûte un contrat, etc., et qu'après ils se retrouvent coincés...
Ils ont un contrat en plus avec Damien Inglis, c'est un joueur qu'ils ont signé
en plus.
En plus, ouais.
Que t'adores d'ailleurs, je crois que t'aimes bien ce joueur, Damien Inglis.
Bon, c'est pas mon joueur préféré.
En attendant, Limoges battu assez sévèrement par l'ASVEL. Bon, l'ASVEL qui est à 6 victoires, hein, mais c'est un peu compliqué le début de saison là de Limoges. Hein.
Après, moi je tiens à mettre... Alors, bien sûr qu'il y a plein de choses qui vont pas à Limoges, il n'y a aucun doute. Mais il faut mettre les choses en perspective. Quand vous jouez en l'espace de 15 jours... Krasnodar, premier candidat à l'Eurocup cette saison. L'Alba Berlin, qui aussi aimerait gagner cette Eurocup. Et que vous allez jouer en championnat et à Strasbourg et à Villeurbanne.
C'est la manière.
C'est les errances défensives plus que sur le reste.
À Strasbourg, c'est honteux. Tu peux perdre à Strasbourg.
Mais Strasbourg, c'est l'équipe B. Enfin, sans que ce soit péjoratif, sans falle quand même.
Bien sûr, sur le Strasbourg, le début de match était cata, etc.
Déjà Villeurbanne,
c'était plus tout à fait la même chose. Bien sûr qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais je voulais juste mettre en perspective le fait que s'ils avaient reçu des équipes lambda entre guillemets du championnat de France, même
pas qu'ils ont perdu à Beaublanc contre Gravelines,
t'engranges de la confiance, etc. Tu peux continuer.
Ils ont perdu à Beaublanc contre Gravelines quand même.
Oui, avec un score incroyable. 95 à 99.
Tu verras que Gravelines en fin de saison, ils finiront pas 14e.
Ah non.
Samardo Samuels, donc le cas du week-end qui a été réglé donc par Limoges. Dans un instant, une autre énorme polémique en NBA, baston. Alors, on a connu des bastons plus sévères quand même, hein, mais entre Houston et les Lakers,
ça fait longtemps qu'on n'avait pas
ça a chauffé. On va en parler parce que les sanctions sont assez bizarrement clémente pour la NBA qui avait la réputation d'être plutôt sévère.
Comme
on va refaire le point sur nos directs avec notamment la Ligue 2, une avalanche de buts entre Lens et le Gazélec. Jean Baumel.
Si ça conduit comme ça, ça va faire 8 ou 9-0. On est déjà à 4-0 au bout de 29 minutes de jeu. Le quatrième marqué à l'instant même par Thierry Ambrose.
très très compliqué pour le Gazec à l'Ajaccio qui a changé d'entraîneur, hein, puisque Della Maggiore a repris les rênes de l'équipe corse. Bon, il faut rappeler aussi qu'il y a 5 suspendus pour les joueurs du Gazélec. Donc bref, ça ne tourne pas rond pour les Corses. En revanche, pour Lens, c'est la soirée parfaite pendant les vacances. 25 000 personnes, 4-0 à la demi-heure de jeu.
On suit également une grosse affiche de Première Ligue entre Arsenal et Leicester avec Benoît Boutron. Salut Benoît.
Salut les gars, effectivement, c'est parti depuis 14 minutes à l'Emirates. 0-0 entre Arsenal et Leicester. On rappelle qu'Arsenal vise une 10e victoire consécutive, toute compétition confondue. Tout va bien pour Unai Emery et les Gunners.
Et puis Dijon en Jeep Elite mène 29-27 face à Bourg-en-Bresse à 4 minutes 33 de la mi-temps. Dans un instant, donc la bagarre entre Houston et les Lakers, vous êtes amusé ou affligé? Appelez au 32-16 pour débattre en direct dans Buzzer Time sur RMC.
RMC, 21h-22h, Buzzer Time. Jeep, partenaire titre de la Ligue Nationale de Basket. Nouvelle Jeep Renegade, voiture officielle de la Jeep Elite. Tout le basket sur RMC avec Amazon.fr. RMC, Alain Marchal, Olivier Truchot, les grandes gueules.
Bonjour, c'est Alain Marchal. Demain, entre 9h et midi, vous retrouvez les GG, les grandes gueules, avec David Dickens, directeur marketing. Nous serons avec l'éducateur Étienne Nibig. Ils auront habité en cadre de la fonction publique à 11h. Les auteurs du livre polémique du moment, Gérard Davé et Fabrice Lhomme, les journalistes, auteurs de Inch'Allah, l'islamisation à visage découvert, en Seine-Saint-Denis. Livre sujet à controverse. À demain 9h.
RMC, 9h midi. Les grandes gueules.
Hankook devient le partenaire officiel de l'AS Monaco, club incontournable de la Ligue 1. Les pneumatiques Hankook, à la pointe de la performance, s'associent au club sportif avec lequel ils partagent la culture de l'innovation et une vision de la performance qui allie créativité et efficacité. Hankook, partenaire officiel du club de la Principauté.
Et si on profitait de 50 gigas à petit prix sur le réseau mobile numéro 1?
Moi, chez Orange, pour 9,99€ par mois, j'ai 50 gigas pour jouer à tous mes jeux quand je veux.
Et moi, chez Orange, pour 9,99€, j'ai 50 gigas pour mater des vidéos et écouter des podcasts. J'adore!
Ouais, bah, moi, j'adore encore plus que toi.
Avec Orange, profitez du forfait mobile 50 gigas pour clients open à 9,99€ par mois pendant 12 mois au lieu de 24,99€. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Jusqu'au 14 novembre, 15€ par mois remboursé pour les nouveaux clients conservant le numéro de mobile. Engagement 12 mois, conditions sur orange.fr. Réseau numéro 1 selon locataire 7 octobre 2018.
Bonjour, vous avez prévu de jardiner, rempoter, préparer la terre pour l'hiver?
Chez Moulineau, nos vers de terre sont des experts.
Nous collectons les restes alimentaires des restaurants d'Île-de-France pour fabriquer du lombricompost haute couture.
On nourrit sainement le sol qui nourrira les plantes.
Alors après les agriculteurs et maraîchers bio, le lombricompost Moulineau arrive chez vous.
Rendez-vous sur moulineau.fr.
RMC, vous êtes fan du Super Moscato Show? Le jeu de société du Kikadi RMC est arrivé. 300 questions-réponses réunies autour de la culture sportive et de la mauvaise foi. Qui réalisera le grand chelem? Retrouvez dès maintenant en librairie en grande distribution la boîte de jeu du Kikadi RMC.
Sophie est artisan fleuriste. Aujourd'hui, elle a coupé 600 fleurs, livré 9 bouquets et rendu 3 femmes follement amoureuses de leur homme. Ah, j'oubliais. Sophie a aussi fait réviser son véhicule Renault en une heure. Et ça, c'est un vrai plus. Avec le réseau spécialisé Renault Pro Plus Premium, bénéficiez de services d'entretien adaptés aux pros. Comme un véhicule de remplacement de même catégorie, un accueil dès 7 heures et des tarifs sur mesure. Offre et services réservés aux professionnels sur les véhicules Renault dans le réseau spécialisé Renault Pro Plus Premium. Liste des affaires et conditions sur Renault.fr.
Chez Amazon, nous vous livrons tous les jours le meilleur du basket français. Retrouvez sur Amazon.fr une large sélection des produits officiels de votre club de Jeep Elite et de Pro B. Et équipez-vous aux couleurs de votre club préféré en un clic seulement sur votre PC ou votre mobile. Amazon, partenaire majeur de la Ligue Nationale de Basket.
RMC jusqu'à 22h, Buzzer Time.
Buzzer Time avec la Dream Team, David Cosette, Stephen Brun, Fred Veil, c'est notre invité Mehdi Mari qui va vous raconter le Utah Jazz de l'intérieur parce qu'il y était cet été, il a passé du temps avec la franchise NBA. Juste avant l'actu de la NBA, on va faire le point sur nos directs avec notamment la Ligue de Lens, Gazélec, Jean Baumel.
33 minutes de jeu et déjà 4-0 pour Lens face au Gazélec.
Arsenal, Leicester en première ligue, Benoît Boutron.
18 minutes de jeu, 0-0 entre Arsenal et Leicester. Un penalty qui n'a pas été sifflé pour Leicester, du coup ça rend faux le coach des Foxes, Claude Puel.
Et à 2 minutes de la mi-temps, égalité 32 partout entre Dijon et Bourg-en-Bresse. La NBA, c'est parti.
RMC, Buzzer Time.
Oh, blocked by James! LeBron James with the rejection.
Les news NBA.
Alors, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une bonne bagarre en NBA. C'est samedi soir, Lakers Houston Rockets, quatrième quart-temps. Les deux meneurs Rondo et Paul en sont venus aux mains. D'autres joueurs sont impliqués. On va détailler l'histoire. Alors, on est loin quand même de la bagarre générale entre Détroit et Indiana en 2004, hein, ouais, qui est un moment mythique de la NBA, voilà. Bon, qui a été un peu trop loin quand même. Ouais, mais
on se la regarde quand même de temps en temps sur YouTube, hein.
N'est-ce pas? Mais la NBA avait réussi finalement à gérer ces situations. Il y en a de moins en moins, certainement à cause de sanctions très lourdes qui sont habituellement prononcées. Même sur les fautes de jeu, ce qu'on appelle les fautes techniques, il y a une sévérité assez extrême, on peut le dire, en NBA. Donc on était un peu étonné de voir ressurgir ce genre de scène, non David?
Ouais, moi j'étais très surpris parce que on se souvient que c'est Ron Artest qui avait pris quasiment une saison de suspension à peu près.
D'autres bon, c'était pris... un client aussi, il faut dire.
Oui, hein, mais et d'autres joueurs, Jermaine O'Neal ou Steven Jackson qui a pris en gros 25 matchs. Et en gros c'était pour dire à l'époque, le message c'était clair, c'était ça ne doit plus jamais se reproduire. Et là, je vois pas où est le juste milieu. Alors, bien sûr que vous êtes allés dans les tribunes, mais là, on est à l'exact opposé. Le message, c'est quoi derrière? C'est de dire, c'est parce que c'est quand même un vrai combat de boxe, quoi. C'est de dire,
on va détailler l'histoire.
Si jamais vous recommencez, tu prendras toi aussi deux matchs.
Voilà, les sanctions sont incroyablement faibles. Alors, le spécialiste des commissions de discipline, Stephen Brave, avait fait un pronostic sur le réseau social Twitter. Il avait pronostiqué 20 matchs, 10 matchs et 10 matchs pour les protagonistes.
Ah, il en était loin.
Qui sont Ingram, Rondo et Paul, qui ont pris respectivement 4, 3 et 2 matchs. On peut décrire l'action rapidement parce que on est à la radio, on va pas faire des tonnes, mais c'est sur une action finalement classique où Harden part au panier, une grosse faute de Brandon Ingram.
Faute, une faute
qu'on peut dire flagrante, non?
Non, même pas, c'est une faute normale.
OK, bon, faute en tout cas, Harden le prend un peu mal, Ingram se chauffe directement. Il le pousse alors que le jeu est arrêté. De là part une sorte d'échauffourée. Les deux meneurs Rondo et Paul se retrouvent face à face. Et là, on voit à un moment partir une droite. Bon, après avec le détail des vidéos, voilà, on se rend compte que Rondo
aurait
craché sur Chris Paul, qui ensuite a essayé de lui mettre le doigt dans l'œil. Et c'est Rondo qui a décoché une gauche, en l'occurrence, pas une droite.
On dirait que tu racontes une baston de maternelle.
Exactement, mais c'est ça.
Incroyable.
Et donc ces sanctions sont pour le moins clémentes, Fred.
Alors, à ta question première, moi, je suis partagé par rapport à ça. D'un côté, je suis content que ça bouge un petit peu en NBA parce que je trouve que c'est un peu trop aseptisé et qu'il y a un peu de baston, ça me dérange pas. Mais après, c'est vrai, je rejoins David encore une fois. C'est pas à donner un bon signal, ça. Ça donne une jurisprudence, c'est-à-dire que tu craches sur un mec, t'as deux matchs de suspension.
En plus, ils n'ont pas tenu compte sur ce que j'ai lu des rapports. Ils n'auraient pas tenu compte du crash.
C'est dans le statement NBA.
C'est ça qui est incroyable. Ça veut dire que maintenant, tu craches sur un mec, tu prends deux matchs.
Honnêtement, c'est difficile d'établir s'il lui a craché dessus volontairement au vu des images.
Oui, mais peu importe. Si nous on a du mal à décrypter, la NBA a décidé. Puis il y a eu crachat. Donc à partir du moment où il y a eu crachat,
moi quand tu dis moi ça me dérange pas ça, moi ça me gêne un peu parce que
non mais j'aime bien que tu sois un peu dur.
Ouais, mais non,
ça va trop loin.
Les coups, ils sont portés.
C'est pour ça qu'on
parle toujours, on va pas faire le vieux con, mais on parle toujours des l'exemple donné à la jeunesse, etc., etc. Le sport doit avoir aussi cette valeur-là quelque part quand même. Quand tu vois des gamins qui sont à moitié en train de devenir des loulous, et si derrière tu dis pas ça, c'est répréhensible, oui, ça, et c'est plus jamais.
Quand
les gars vont dire
David,
mais c'est pas grave, c'est pas grave si j'insulte, c'est pas grave si je mets une pêche à quelqu'un. Je suis désolé.
Donc que je suis partagé par rapport à ça. D'un côté, je suis content que ça bouge un petit peu en NBA parce que comme je me répète, pour moi c'est une ligue qui est complètement aseptisée où on peut rien dire, on peut rien faire. Mais par contre, ce qui me choque, c'est les coups qui ont été donnés, les crachats et surtout les sanctions qui donnent la possibilité à tout le monde de faire la même chose. Et ça, c'est choquant.
N'oublions pas aussi que la NBA, alors c'est pas le cas de tous les joueurs NBA, mais est fréquenté quand même par beaucoup de bad boys qui ont aussi ce moyen-là pour sortir de leurs conditions, mais qui parfois sont rattrapés. Ça a été le cas de Ron Artest, tu citais Ben Wallace, je crois. Ben Wallace, je suis pas sûr, mais bon, c'est vrai aussi que la sévérité permet de mettre un stop à tout le monde d'entrer, quoi, de dire ça c'est pas possible en NBA.
Ouais,
tout
simplement, et puis surtout que ce match-là, c'était un match en prime time, c'était la première de LeBron du côté des Lakers,
qui a
très bien réagi. Enfin, il aurait mieux réagi en prenant son coéquipier plutôt que
son meilleur ami.
Oui, mais après tu choisis pas forcément dans la mêlée.
Il choisit son meilleur ami. Après la NBA fait très très attention à son image. C'est David Stern d'ailleurs qui le celui qui était président de la NBA avant Adam Silver qui avait corrigé tout ça avec les dress codes Allen Iverson qui arrivait en baggy et en manteau de fourrure. Il avait corrigé tout ça. Et c'est là où je suis un petit peu étonné parce que en prime time voir des droites, je pensais qu'ils allaient prendre cher parce que Carmelo Anthony a pris 15 matchs en 2007 en mettant une droite à Mardy Collins, le joueur de Strasbourg. Ron Artest, encore lui, il a pris 10 matchs en mettant un coup de coude à James Harden dans le jeu. Donc moi, c'est pour ça que je suis très très étonné par cette clémence
et le message qui avait été suspendu un an parce qu'il y avait
un flingue dans le vestiaire. Mais c'est surtout le message donné aux autres joueurs. Qu'est-ce que maintenant le mec échauffouré cette saison, le gars il se dit je vais mettre une praline, je vais prendre 3 matchs sur 82, qu'est-ce que c'est?
Mehdi Marie, notre invité, nous écoute et je t'ai vu, Mehdi, avoir envie de réagir à ce débat, non?
C'est vrai que les sanctions elles sont plutôt faibles sur ce match-là, parce que on voit cet été la NBA a vraiment insisté sur l'idée de moins en moins avoir d'impact avec les mains dans le jeu sur les porteurs de balles, sur les non-porteurs de balles. C'est vraiment un point où avec les Jazz pendant cet été il y a eu des interventions des arbitres pour insister sur ça. Sur les matchs de préparation, ils ont vraiment mis le focus sur cette idée-là, donc d'aseptiser encore plus le jeu. On a vu des matchs, je crois les Pelicans ont mis pas loin de 150 points dès le début de saison, donc il y a vraiment une volonté de laisser les attaquants s'exprimer, d'avoir un jeu moins physique, athlétique, mais moins avec moins de contact. Donc c'est évident que ce genre d'événement, c'est pas positif pour la Ligue, et les sanctions, elles sont plutôt faibles, même si financièrement, elles sont quand même assez élevées.
Oui, parce que pendant la suspension, on touche pas de salaire. Hein, donc
500 000 pour deux matchs, Chris Paul.
Voilà, les salaires étant ce qu'ils sont.
En proportion de ce qu'il y a.
Mehdi Marie qui nous racontera les coulisses du Utah Jazz tout à l'heure, 21h45. Théo nous appelle au 32-16. Salut Théo.
Bonsoir tout le monde.
Alors,
bonsoir.
Le retour des bagarres en NBA, tu es amusé ou affligé?
Je suis ni l'un ni l'autre.
Salut Théo, à bientôt.
Non, je vais expliquer pourquoi. Parce que aujourd'hui, la NBA, ça leur fait un petit coup de lumière. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé sur des bagarres. On regarde l'équipe, ils parlent de ça. Et l'air de rien, pour la NBA, ça leur fait quand même de la pub. Et ils en jouent. Je pense qu'ils en jouent quand même beaucoup. Ensuite, par rapport au comportement des joueurs, on sait que Rondo et Paul, ils s'aiment pas. Donc, ça pouvait arriver. Ce qui est le plus regrettable, c'est le comportement d'Ingram.
Ouais,
lui il doit être banni de la saison.
Qui est le détonateur, oui. Et en plus, qui revient après mettre une droite par derrière.
Vieux fourbe.
C'est ça, Rondo, il a quand même gagné un titre. Donc, c'est quand même un grand joueur. Non, mais c'est pas pour l'excuser. Mais c'est quelqu'un qu'on connaît. On connaît son caractère, on connaît son style de jeu.
Enfin, il y a beaucoup de gens qui pensent que Chris Paul est le genre idéal, mais Chris Paul, c'est loin d'être ça. Hein.
Mais tu vois, c'est ce que j'allais dire, Chris Paul. Quand tu connais un peu la NBA, tu sais que c'est un petit fourbe. Déjà, ce qu'il a fait.
Fourbe, c'est gentil.
C'est pas mal. et quand je vois Ingram, pour moi, Ingram, c'est rien. C'est une grande saucisse montée sur des petits bâtons. Et voilà.
Un peu comme Stephen.
Ouais, mais moi, alors, dans ton discours, il y a deux choses qui me gênent. J'ai l'impression qu'il pourrait y avoir, si t'étais commissionneur, deux poids deux mesures. C'est-à-dire que en gros, le mec il a du talent, il fait ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'on est on a de la mansuétude pour lui parce qu'il a du talent. Et celui qui n'a pas de talent, lui il va se faire fracasser. Donc moi personnellement, je pense que tu sois une méga star ou un anonyme, si tu te comportes pas bien, tu vas être surnommé de la même façon.
Chris Paul presque à l'inverse, parce que
Chris Paul est quand même président du syndicat des joueurs en NBA. Chris Paul,
c'est la classe. Après, attention, Chris Paul, quand même, il se prend un crachat, il a une réaction qui peut être compréhensible. Oui. C'est-à-dire qu'il essaie de lui mettre un doigt dans l'œil parce que tu sens qu'il se retient de pas le frapper.
Nous, on prend un crachat, on réagit à minima, etc.
Merci pour ton appel, Théo.
Ce que dit Théo, je suis pas d'accord non plus sur la NBA, ça fait un coup de pub, etc. Je pense que la NBA est tellement puissante qu'elle a sûrement pas besoin ce spectacle lamentable pour avoir un peu plus d'audience d'une façon ou d'une autre. D'ailleurs, une autre ligue, la NHL, a fait énormément pour réduire les bagarres. C'est pas pour que la NBA tout d'un coup ça devienne des jeux du cirque, ça n'a pas de sens.
Alors au passage, ça a permis à certains médias de déterrer une vieille archive de Karim Abdul-Jabbar. On s'est régalé, on va pas se mentir. Il se prend un coup de coude dans le foie certainement,
pas en tout cas
qui lui coupe le souffle. Alors on voit une scène, c'est impossible de voir ça aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il prend le temps de récupérer, et puis quelques secondes après, il revient et bam, il allume le mec qui lui a mis le coup de coude. C'est avec le recul, c'est très drôle quand même.
Oui, d'ailleurs, le mec n'est toujours pas réveillé. Hein.
Allez, dans un instant, toute l'actu du basket français, c'est le 1 contre 1 contraint désormais. Et puis avec notre invité Mehdi Mari, on vous emmène dans les vestiaires du Utah Jazz. Ce sera le locker room dans un quart d'heure. À tout de suite sur RMC. C'est la mi-temps entre Dijon et Bourg, plus 2 pour Dijon. Lens mène toujours 4-0 face au Gazélec. Et entre Arsenal et Leicester, le temps, le score, Benoît Boutron.
Deux jeux pour l'instant entre Arsenal et Leicester, 0-0 toujours. Énorme occasion pour Leicester avec la tête de Maguire et la parade de Bert Leno, mais 0-0 toujours.
À tout de suite pour Buzzer Time sur RMC, toute l'actu du basket français.
RMC, Buzzer Time,
Buzzer Time.
Les news Jeep Elite.
Alors on va parler du cas Samardo Samuels, mais d'abord j'accueille Cyril Méjean qui a une info exclusive RMC Sport à vous donner.
Qu'est-ce qu'il fout là depuis tout à l'heure avec le cas sur les oreilles?
Alors, vous savez que DJ Cooper a été suspendu par la FIBA pour un cas de dopage, on n'en savait pas plus, c'est toi qui vas nous apporter des précisions. Quel est ce cas exactement?
Alors il est pour l'instant suspendu jusqu'en juin 2020 suite à un contrôle positif à la gonadotrophine chorionique. Donc c'est une hormone qui est d'habitude trouvée chez les femmes enceintes et de temps en temps chez les hommes, mais si on trouve ça chez les hommes, c'est pour plusieurs hypothèses. C'est une bonne mauvaise nouvelle, c'est sûr. C'est ou parce que c'est un produit dopant et stimulant, ou parce que on a un cancer des testicules. Sauf que vu qu'il a été suspendu, DJ Cooper n'a pas un cancer des testicules. Ça a dû être, il y a dû y avoir en fait des tests qui ont été faits avant le, après le test de la FIBA. Et puis ce soir, donc dans Buzzer sur RMC Sport 2, on va vous parler de ce cas en détail puisque selon nos informations, en fait DJ Cooper serait totalement fan, on va dire, serait totalement accro, serait un consommateur régulier de cannabis. Donc on aura plus d'infos ce soir dans l'émission.
Comme beaucoup.
Et puis surtout, comme beaucoup de joueurs.
Oui.
Mais quel rapport avec l'hormone
Parce qu'il a utilisé l'urine,
c'est pas son urine. Alors,
en fait.
Pas son urine.
Donc il aurait substitué l'échantillon donc par une urine féminine.
En fait, il y a deux hypothèses. La première, en fait, c'est qu'il serait servi de cette urine en tant que produit dopant et anabolisant. Et la deuxième, en fait, c'est qu'il aurait utilisé une autre urine, une urine de femme.
C'est la première hypothèse, c'est-à-dire qu'il a avalé l'urine, et c'est ça. T'as pensé à ça aussi.
Il aurait pris l'hormone.
Il y a eu un petit bug dans ta phrase, Cyril. On a tous compris qu'effectivement, il avait pris de l'urine pour se doper. Hein.
Non, il aurait pris l'hormone. Il aurait pris l'hormone, en fait.
Mais tu réécouteras ta phrase, t'as dit urine, pas d'hormone. Bon, bref, c'est pas si drôle parce que c'est quand même un cas bon de suspension.
Et donc, la deuxième hypothèse,
en fait, c'est qu'il aurait pris une autre urine lors des contrôles pour dissimuler justement cette consommation régulière de cannabis.
Très bien. Donc...
Heureusement qu'il n'a pas utilisé l'urine de Père Dorian, hein, parce que là il aurait pris 8 piges.
Hein. Oh, un peu de cholestérol éventuellement, mais pas beaucoup d'autres choses dangereuses. Hein. Merci Cyril. On le détaille dans Buzzer tout à l'heure. RMC Sport 2, 22h30. L'actu de la Jeep Elite, eh bien on va parler de Limoges aujourd'hui. On va parler du plus grand club français. On est d'accord?
Le club de cœur de Fred Weiss.
Non mais
David, en fait, tu me le fais à chaque fois, c'est ça? À
David,
chaque fois,
petite
tu me
parenthèse. Parce que en écrivant, tu vois, mon introduction, je me suis dit bon, comment on va le vendre ce sujet? Bah, c'est le plus grand club français quand même. Est-ce que c'est le plus grand club français, Limoges?
Villeurbanne a le plus grand nombre de titres de champion de France, mais Limoges et d'ailleurs c'est leur
slogan même.
C'est le premier club champion d'Europe avant même l'OM. C'était un mois avant l'OM, tout sport
en
confondu.
93, hein.
Et ça, personne ne pourra jamais le enlever. Et je pense qu'il va se passer quelques siècles avant qu'il y ait un autre club français qui remporte l'Euroleague. Donc rien que pour ça, ils ont été au sommet du basket
c'est
européen.
C'est quand même un club mythique du sport
et
français.
Et ils font partie, en plus, Pierrot, ils font partie des très rares clubs. Il y en a très peu qui ont remporté toutes les Coupes d'Europe. Alors après, il y a eu plusieurs noms différents, mais en gros, qui ont remporté la C1, la C2 et la C3. Et il y a eu très peu de clubs qui ont fait ça, même parmi les plus grands.
Mais tu pars en vacances au bout du monde, tu rencontres des gens, tu leur parles de Limoges.
Genre le CSP basket. Limoges.
Limoges basket. Le rayonnement qu'a eu Limoges, aucun club, autre club français a pu l'avoir en Europe complètement.
Mehdi, t'es passé par Limoges, c'est ton club, non?
Oui, exactement.
Ton club de cœur?
Les deux dernières années.
Mehdi Marie, je vous rappelle notre invité qui nous racontera la préparation du Utah Jazz. Alors, l'actualité de Limoges, bah, c'est ce choix qu'a fait le club, qui avait un dilemme à trancher. Le meilleur joueur de l'équipe, Samardo Samuels, se comporte mal, voire très mal. Il parle mal à son coach. Il insulte son coach Kyle Meaning. Et du coup, il est suspendu. Alors, dans un premier temps, il est suspendu. On ne sait pas quel va être son avenir, s'il va être définitivement viré ou pas.
Procédure, il respecte la procédure de licenciement.
Et il est réintégré au bout de 3 semaines. Il a joué ce week-end. Et donc, bah, on va repartir comme si de rien n'était, en gros. Hein. Quelques détails sur l'affaire. Il a fait quoi exactement? Est-ce qu'on sait ce qu'il a dit à son coach?
Il a lâché un fuck off à Kai Meeling lors d'un temps mort au match du Portel.
Alors qu'il l'avait déjà fait une première fois en préparation face à Orléans.
Sauf que ça n'était pas sorti à l'époque.
Non, ça n'était pas sorti.
C'est quand même une grosse différence.
On va pas traduire fuck off. Hein.
Alors, on sait que les clubs de Jeep Elite roulent pas sur l'or. On sait que trouver des joueurs de ce calibre, c'est pas aisé, surtout quand la saison a démarré. Est-ce que pour vous, Limoges a pris la bonne décision ou est-ce que c'est un peu faiblard, entre guillemets, de la part de la direction limougeaude?
Je pense pas que ce soit faible, je pense que c'est pragmatique. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils ont besoin de lui, ils savent qu'ils ont besoin de sa présence sous le cercle, ce que peut pas forcément apporter, on l'a vu sur les derniers matchs, les deux autres pivots, Mame Jaïté et Jerry Boutielé. Et après, il y a un autre versant, on peut poser la question, si à chaque fois qu'un joueur insulte son coach, je sais, c'est pas bien, c'est pas du tout qu'on valide ça, mais il n'empêche que c'est déjà quand même arrivé un paquet de fois. Et au bout d'un moment, je pense qu'il y aurait certaines équipes qui finiraient la saison à 4. Donc c'est ça le truc.
Ah,
après, je pense qu'on en a parlé.
Ça arrive régulièrement. Un fuck-off qui part comme ça.
Dans chaque équipe.
Par exemple, Stephen, dans ta carrière, t'en as lâché combien à tes coachs?
Pas des fuck-offs, parce que je parle français.
Oui, bon, l'équivalent.
J'ai lâché des.
Tu me casses les couilles, des trucs comme ça, quoi.
Ferme ta gueule.
Au coach?
Oui, bien sûr.
Vous êtes vrai dans ce sport-là, ça.
Ce que tu ne comprends pas, c'est qu'au basket, le cœur parfois est à 220. C'est pas une entreprise comme les autres. Alors effectivement, les gens qui travaillent chez eux, se disent, si j'ai ça, mon patron, je me ferai virer. Oui. Sauf que là, ça n'a rien à voir. On est de conditions extrêmes.
Oh, tu viens de faire 5 allers-retours, tu viens prends temps mort, le coach, tu peux lâcher un petit ferme ta gueule, t'es pédard.
T'as pas la possibilité physique de prendre sur toi à chaque
mental
fois.
Mental aussi, c'est les nerfs qu'il faut maîtriser. Bah,
c'est compliqué.
Parce que le coach, il peut pas se prendre un ferme ta gueule toutes les deux minutes.
Mais
non plus,
mais après, il se passe non plus, justement. C'est pour ça qu'il y a eu une sanction. Ça n'arrive pas tout le temps.
Est-ce que Limoges a pris la bonne décision, Fred?
Limoges, je rejoins complètement David, a pris une solution pragmatique.
C'est dommage ou pas? Est-ce que
non, je pense qu'il a été sanctionné.
Est-ce qu'on aimerait avoir des clubs un peu plus puissants financièrement qui puissent se permettre d'être plus fermes dans ce genre de choses?
Après, tout le monde a le droit de faire une erreur aussi. Cette situation-là, elle se passe au Barça ou au Real Madrid, Savardo Samuel, il dégage. Parce qu'ils ont les moyens de trouver un autre joueur.
Ils ont les moyens de trouver un autre joueur. Ils ont les moyens d'aller, de se la jouer au prud'homme et de voir si c'est eux qui gagnent. Je suis d'accord. Sauf que dans ce cas de figure, David a raison. C'est un joueur qui peut apporter énormément sur le marché. Il n'y a pas d'autre joueur, à ce tarif-là qui puisse apporter autant. Et en même temps, le mec a tout fait. Il s'est excusé publiquement. Ben voilà, il a fait une erreur, il a été sanctionné.
Après,
et
David,
voilà.
Si le club envisage de le licencier, c'est quoi les possibilités en fait? Ils doivent payer la rupture du contrat, ils peuvent recruter.
Faut qu'ils arrivent à prouver qu'il y a une fraude grave avec des témoins, monter un dossier, etc. Après,
ils peuvent recruter dans l'immédiat comme un joker médical entre guillemets ou pas?
Ça va leur compter comme contrat. Nouveau contrat, t'as droit à 16 contrats professionnels.
Donc, s'ils sont déjà à 16 et qu'ils coupent Samardo Samuel,
ils peuvent pas recruter. Mais ils étaient pas 16 déjà.
D'accord.
Oui, parce qu'en fait, ils ont aussi d'autres dossiers en cours potentiels. On ne sait pas si le jeune meneur, qui probablement un jour, Stephen le disait hier à l'antenne, sera très fort, mais qui pour l'instant patauge quand même pas mal dans la semoule, si jamais il n'arrive pas à grandir, à mûrir, à être plus intense, à être tout simplement plus efficace, ça pourra, je dis bien, ou ça pourrait au conditionnel, devenir un dossier. Donc s'ils ont déjà ce souci avec Samardo Samuel, est-ce que ça leur coûte de l'argent ou que ça leur coûte un contrat, etc., et qu'après ils se retrouvent coincés,
ils ont un contrat en plus avec Demenglis, c'est un joueur qu'ils ont signé en plus.
En plus, ouais.
Que t'adores d'ailleurs, je crois que t'aimes bien ce joueur Demenglis.
Bon, c'est pas mon joueur préféré.
En attendant, Limoges battu assez sévèrement par l'ASVEL. Bon, l'ASVEL qui est à 6 victoires, hein, mais c'est un peu compliqué le début de saison là de Limoges. Hein.
Après, moi je tiens à mettre. Alors, bien sûr qu'il y a plein de choses qui vont pas à Limoges, il y a aucun doute. Mais il faut mettre les choses en perspective. Quand vous jouez en l'espace de 15 jours, Krasnodar, premier candidat à l'Eurocup cette saison, l'Alba Berlin, qui aussi aimerait gagner cette Eurocup, et que vous allez jouer en championnat et à Strasbourg et à Villeurbanne.
Ah, c'est la manière.
C'est les errances défensives plus que sur le reste.
À Strasbourg, c'est honteux. Tu peux perdre à Strasbourg,
mais Strasbourg, c'est l'équipe B. Enfin, sans que ce soit péjoratif, sans falle quand même.
Bien sûr, sur le Strasbourg, le début de match était
cata, Villeurbanne,
c'était
mieux.
Plus tout à fait la même chose. Bien sûr qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais je voulais juste mettre en perspective le fait que s'ils avaient reçu des équipes lambda entre guillemets du championnat de France,
n'oublions pas qu'ils ont perdu à Beaublanc contre Gravelines.
T'engranges de la confiance, etc. Tu peux continuer.
Ils ont perdu à Beaublanc contre Gravelines quand même.
Oui, avec un score incroyable.
95 à 99.
Tu verras que Gravelines en fin de saison, ils finiront pas 14e.
Ah non.
Samardo Samuels, donc le cas du week-end qui a été réglé donc par Limoges. Dans un instant, une autre énorme polémique en NBA, baston. Alors, on a connu des bastons plus sévères quand même, hein, mais entre Houston et les Lakers,
ça fait longtemps qu'on avait pas vu
ça chauffé. On va en parler parce que les sanctions sont assez bizarrement clémente pour la NBA qui avait la réputation d'être plutôt sévère. On va refaire le point sur nos directs avec notamment la Ligue 2, une avalanche de buts entre Lens et le Gazélec. Jean Baumel.
Ah, si ça conduit comme ça, ça va faire 8 ou 9-0. On est déjà à 4-0 au bout de 29 minutes de jeu. Le quatrième marqué à l'instant même par Thierry Ambrose. Très très compliqué pour le Gazélec à l'Ajaccio qui a changé d'entraîneur, hein, puisque Della Maggiore a repris les rênes de l'équipe corse. Bon, il faut rappeler aussi qu'il y a 5 suspendus pour les joueurs du Gazélec. Donc bref, ça ne tourne pas rond pour les Corses. En revanche, pour Lens, c'est la soirée parfaite pendant les vacances. 25 000 personnes, 4-0 à la demi-heure de jeu.
On suit également une grosse affiche de Première Ligue entre Arsenal et Leicester avec Benoît Boutron. Salut Benoît.
Salut les gars, effectivement, c'est parti depuis 14 minutes à l'Emirates. 0-0 entre Arsenal et Leicester. On rappelle qu'Arsenal vise une 10e victoire consécutive, toute compétition confondue. Tout va bien pour Unai Emery et les Gunners.
Et puis Dijon en Jeep Elite mène 29-27 face à Bourg-en-Bresse à 4 minutes 33 de la mi-temps. Dans un instant, donc la bagarre entre Houston et les Lakers, vous êtes amusés ou affligés? Appelez au 32-16 pour débattre en direct dans Buzzer Time sur RMC.
RMC, Buzzer Time, Pierre Dorian.
Buzzer Time tous les lundis soirs, 21h, 22h, David Cosette, Stephen Brun, Frédéric Weiss. Juste les scores à la mi-temps en Jeep Elite, 38-36 pour Dijon face à Bourg. En Ligue 2, 4-0 pour Lens face au Gazélec. Et en Première Ligue, ça a bougé entre Arsenal et Leicester, Benoît Boutron.
Et c'est Leicester qui mène 1-0 à l'Emirates Stadium. Le centre de Chilwell qui a été contré par Bellerin et du coup ça a trompé le gardien Bert Leno. Ça fait 1-0 pour Leicester sur la pelouse d'Arsenal et pour l'instant c'est mérité. Les Foxes qui sont bien plus impressionnants qu'Arsenal, alors que les Gunners, on le rappelle, restent sur une série hallucinante de 9 victoires consécutives, toutes compétitions confondues.
RMC Buzzer Time. Buzzer Time. Le 1 contre 1.
Donc le 1 contre 1 avec Stephen en grand favori, David Cosette et Fred Weiss en challenger. Messieurs, l'actu du basket français, Jeep Elite Pro B, Ligue Féminine, équipe de France, français de la NBA, c'est parti. On va faire vite aujourd'hui parce qu'on veut garder du temps pour notre invité Mehdi. Marie, Mehdi, t'as pas le droit de participer, hein. T'as pas le droit de les aider, hein. C'est trop facile pour toi. Allez, on démarre avec Zvezdan Mitrovic, le coach de l'ASVEL, qui a battu un record ce week-end.
Le premier coach de l'ASVEL à 6 victoires, à démarrer avec 6 victoires.
Ouais.
Alors,
mais c'était pas ça la question.
Exact. Ouais, je vais l'accorder à Stephen, c'est... Non, c'est pas exactement ça, c'est pas exactement ça.
Alors c'est quoi la question?
Le meilleur départ pour un coach à l'ASVEL.
Quel record a battu Zvezdan Mitrovic?
Le nombre de victoires.
Le nombre d'invincibilités sur un début de championnat à la Villa.
Il manque un truc en fait. Non, t'arrêtes.
Le nombre de victoires consécutives.
Le nombre de victoires consécutives en championnat, c'est 5 d'entrée pour commencer la saison.
C'est un 6-0 en effet, mais d'autres ont fait un 6-0 à l'ASVEL. Quelle est la particularité de Mitrovic?
En début de saison?
Non.
Excellent, David Cosette. Et voilà. Déjà Stephen Brun.
Alors, tu peux nous parler de la tarte de Chris Paul ou de Rondo?
Et
tu viens de mettre une tarte à ton micro. 1-0 pour David. On va enchaîner vite, même si.
Vol.
Une petite info, tiens, de Mehdi Marie sur ce match. Les rookies, les scouts NBA étaient présents.
Oui, c'est sûr. Quand sur le même match, il y a Sekou Doumbouya qui est annoncé entre 3 et 9, je crois, à la prochaine draft. Draft NBA et Théo Malédon, qui est un potentiel français évident pour la draft. Ça fait
Doumbouya, Limoges, Malédon, ASVEL qui étaient réunis sur le même match. Deuxième question.
D'ailleurs, attends, je reviens sur la question. Coach rookie, c'est-à-dire que c'est sa première année coaching,
exactement.
C'est pas sa première année coaching.
Tout le monde avait compris. Quelle mauvaise foi.
Allez, tout le monde, exactement. Tout le monde a compris. Mauvaise foi.
Non, c'est pas le bon terme.
Tu retournes dans ta raquette et
Non, il va pas dans la raquette, Stephen.
Allez, oui, c'est vrai, t'as pas tant. On va parler des stats de cette sixième journée de Jeep Elite avant le match de ce soir, bien sûr, entre Dijon et Bourg-en-Bresse sur les catégories suivantes. Points, rebond, passe, contre, interception, 3 points lancés, tir, évaluation. 9 catégories classiques, hein. Un seul club a placé 2 de ses joueurs en
Chalon.
D'une catégorie.
Chalon.
Je ne vous demande pas le nom des joueurs.
Camara Robinson.
Pas du tout.
Le Valois.
Pas du tout.
De quoi? C'est les noms des joueurs?
Répète la question, je comprends pas. Répète la question.
Un seul club, mais si vous me laissez parler, vous allez comprendre. Un seul club a placé 2 de ses joueurs en tête
dans
d'une
même catégorie.
Non, en tête dans deux catégories.
Robinson, je suis Robinson à la passe, c'est Camara au rebond.
C'est ce que tu dis.
Mais non, c'est pas ça.
À l'évaluation, Robinson et Camara au rebond.
À la passe, Robinson et Camara au rebond.
C'est ce que je dis depuis le début.
Qu'est-ce que c'est que ces questions moisies?
Peut-être que je me suis trouvé, je vérifie tout de suite.
Oui, tu t'es trouvé.
Peut-être que je me suis trouvé, mais il y en a un autre en tout cas. Un autre club qui a placé deux de ses joueurs.
Bah, Levallois.
Non.
Chalon.
Dijon.
Non.
L'Asvel.
Non.
Hein? Ah, si, Gravine.
Ah, presque.
Taylor BCM, Smith. Le BCM, c'est Smith et Sen. Non. En meilleur passeur français.
Ah oui,
ça passe. Ça passe.
C'est toujours pas la bonne réponse.
Hein? Le Mans.
Dijon.
C'est Le Mans, exactement.
Cameron Clark.
Oui, et l'autre. Et
Valentin Bigot.
Non.
Michael Thompson.
Non.
Dimitris Conger.
Non.
Wilfried Yeguete.
Terry Tarpey.
Terry Tarpey.
Alors, vous allez me la donner.
Mais c'est quoi
la question? J'ai rien compris à la question.
On parle sur la journée, en moyenne.
Je vous ai parlé sur la sixième journée de Jeep Elite.
Trois à pas avoir compris.
La question est mal posée. S'il y a trois personnes qui comprennent mal.
J'ai une confirmation de Cyril Méjean qui me dit qu'il a rien compris aussi.
Ouais, mais sauf que si vous écoutiez au lieu de vous précipiter, c'est écrit là, sur les stats de la sixième journée de Jeep Elite. J'ai commencé ma phrase comme ça, les gars. Donc moi, comme j'y connais rien au basket, je vais pas vous mentir, vous m'avez fait douter, j'étais persuadé de m'être retrouvé.
T'as dit qui en tête? C'est pas ça, c'est pas la question.
Ça nous enduit d'erreur.
C'est mal posé, soit, mais vous n'avez rien compris quand même.
C'est les meilleures pertes du week-end, c'est ça.
Bon, dites-moi un mot sur Le Mans Gravelines quand même, qui était le match de la journée.
Mais Le Mans a très bien commencé, très bien commencé, et il y a eu un vrai souci avec Gravine sur la première mi-temps. Il n'était pas là du tout jusqu'à ce qu'Edgar Sosa fasse un geste très déplacé.
Qui?
Edgar Sosa.
Et oui, il allait jouer en Espagne, le mec.
C'est un geste très déplacé et que ça réveille un peu tout le monde. Et Gravine est bien revenu dans le match. Le Mans a commencé à déjouer un petit peu et ça se finit plutôt pas mal avec un gros dunk de Will Yeguete sur le meilleur contreur du championnat, Taylor Smith.
Si vous aviez compris la question,
par contre, Sosa,
laissez-moi un message avec le compte Twitter de Buzzer Time et le hashtag RMC Live. Charade, ouais. On y va, on est prêt. Pour l'instant, il y a que David qui a marqué un point. Cet arrêt de jeu, c'est bon pour toi, David.
Un faux point, d'ailleurs.
Allez, mon premier est plus confortable, mais moins pratique que des gants. En empilant n'importe quoi,
Mouftiarou.
Excellent. Mouftaou Yarou. Alors, je vous fais pas le reste de la charade, ça n'a aucun intérêt, mais grâce au Mouf, tu marques un point, Fred. MVP de Levallois Strasbourg.
Mouftiarou, il est très intéressant. Vincent Collet l'avait dit, ils ont des joueurs à l'intérieur qui sont très forts. Et Mouftiarou en fait partie.
Une petite déclaration d'enchaîne. Qui a déclaré ce week-end, il me semble, qu'élever trois filles, c'est quelque chose de très spécial. Non, c'est mon défi, faire en sorte que ces filles qui sont fortes, indépendantes, intelligentes et belles deviennent des leaders. C'est ma mission.
Valérie Demory.
Non.
Hein? Élever trois filles.
Fred Dussard.
Quelqu'un, un joueur de basket français en activité qui vient d'avoir une troisième fille il y a deux mois.
Nando De Colo.
Non. Et qui fait un petit début de saison, rien de fantastique.
Tony Parker.
Bah non. Non, mais tu te rapproches quand même.
Nicolas Batum.
Non.
Rudy Gobert.
Antoine Diou. Bah, et là vous y êtes presque, là il y a que Stephen qui essaye là, les gars.
Antoine Diou, je t'ai dit.
Non,
Rudy Gobert.
Yann Maïmi, David Cosette.
Voilà. Incroyable.
Il dit un nom comme ça maintenant.
Et voilà, tonight is my night.
Bah, c'est pas fini, on enchaîne. Je vous fais une je sais ce qu'on va faire, on va faire les 5 questions.
Très bien.
Puisque ça vaut 2 points. David est à 2 points, Stephen à 0, Fred à 1 point. Sur des coachs emblématiques de proie, de Jeep Elite, c'est Stephen qui a le moins de points qu'il choisit en premier. Hein. Vincent Collet, Freddy Fautou ou Pascal Donadieu, 5 questions. Et on va enchaîner, hein. Je vous laisse pas trop de temps de réflexion sur chaque réponse. Hein.
Pascal Donadieu.
Allez, c'est parti, t'as pris le plus facile, cochon.
Ah, j'ai pris le seul coach que j'ai eu.
Département de naissance.
Pascal Donadieu. Le Finistère.
T'aurais réfléchi 2 secondes, tu l'avais. C'est évidemment dans les Hauts-de-Seine, 92. Quel est le dernier club de sa carrière de joueur?
Nanterre.
Excellent. Combien de titres de champion de France en tant que coach?
Combien de titres de champion de France en tant que coach? Deux, Pro B et Pro A, donc deux.
Ah, je te l'accorde. C'était un, mais Pro A, donc c'est bon. Okay. Combien de médailles avec l'équipe de France A?
Combien de médailles avec l'équipe de France A? Zéro.
Zéro, c'est bon. Et depuis quelle année est-il assistant coach de l'équipe de France?
Il a commencé à l'Euro 2017, donc depuis 2017.
2016, la bonne réponse.
Non.
Fred, non. Vincent Collet, Freddy Fautou, tu vérifies si tu veux.
Freddy Fautou, je suis nul en département, vous le savez déjà.
Quel département est-il? Le Béarn. Les Landes, dommage, Béarn. Bien tenté. Quel est le dernier club de sa carrière de joueur? Vas-y, si tu sais pas, passe.
Pau.
Bon, le ASCH Avenir, Serlousien, Colombin, Orsarois. Combien de titres de champion de France? C'est dur, hein. Freddy Fautou, c'est dur, franchement.
Ouais, ça pique. 3.
7. Combien de médailles avec l'équipe de France A?
Une,
excellent. Et combien de sélections d'équipe de France à 5 près?
47.
Excellent! C'est le bon, le pile poil, je te donne 2 points. Ça changera rien, ça fait 3 bonnes réponses. Ah si, Steve, on a 3, non, je te donne pas 2 points. Vincent Collet, David Cosette, département de naissance.
76.
Seine-Maritime.
Attends, faut le nom.
Seine-Maritime, Le Havre, c'est le mien aussi.
Dernier club de sa carrière de joueur.
Dernier club de sa carrière de joueur. J'hésite entre Le Mans et Le Havre. Le Mans ou Le Havre.
Vite une réponse. T'as 5 secondes. 1, 2, 3.
Le Havre.
C'est Le Havre, bonne réponse. Combien de titres de champion de France?
2. 2. 2. Avec Villeurbanne et Le Mans.
On accorde ou pas, Cyril?
En 2006, on accorde, c'est en bon. 2006, en 2009.
Combien de médailles avec l'équipe de France A?
4.
4, c'est bon. Et depuis quelle année est-il sélectionneur des Bleus?
2009.
C'est bon, carton plein. Les deux points, voilà, David Cosette, c'est gagné, David. Voilà ton premier titre. Et Stéphane et Fanny, il va passer une très mauvaise
soirée. Brillant sur Vincent Collet, Stéphane, ne trouves-tu pas?
Dijon, Bourg-en-Bresse, 38 partout. On n'a pas eu le temps de tout faire, hein, mais c'est pas grave, je vous ressortirai ma deuxième charade la semaine prochaine. Tout de suite, on va garder du temps pour parler du Utah Jazz. Apparemment, ce sera sans Stephen Brun, Mehdi Marie,
qui ne
voudra pas, mais ça m'intéresserait qu'il pose une question. À moins qu'il digère pendant la pause. Le temps, le score, Lance Gazélec en Ligue 2 avec Jean Baumel. C'est toujours la pause, peut-être, d'ailleurs, Jean. Oui, donc 4-0 pour Lens. Et Arsenal-Leicester en première ligue, Benoît Boutron.
Il reste 2 minutes 30 à jouer en première période et c'est Leicester qui mène 1-0 depuis le but inscrit contre son camp par Hector Bellerin à la 30e.
Allez, à tout de suite, c'est le locker room du Utah Jazz ce soir. À tout de suite.
RMC, 21h-22h, Buzzer Time, Pierre Dorian.
Allez, Buzzer Time, tous les lundis soirs, 21h-22h, votre rendez-vous basket, la Jeep Elite en direct, Dijon-Bourg-en-Bresse, égalité 42-42, il reste moins de 5 minutes dans le troisième quart-temps. 4-0 pour Lens face au Gazélec et puis ça a de nouveau bougé entre Arsenal et Leicester. Benoît Boutron, la première ligue.
Ouais, et c'est la mi-temps d'ailleurs, Pierrot. Un partout désormais entre Arsenal et Leicester. C'est Mesut Ozil qui a égalisé pour les Gunners. Un plat du pied, petit filet. Ça fait donc un partout à la pause.
Allez, tout de suite, on vous emmène dans le vestiaire du Utah Jazz.
RMC. Buzzer Time. Buzzer Time.
Je m'en fous ce qui arrive en deuxième mi-temps. Même si on perd, au moins on joue avec notre fierté. Mais moi, je préfère perdre en se battant.
Locker Room.
Avec notre invité Mehdi Marie, un témoignage unique, on peut le dire, parce que Mehdi, tu es coach en France et tu as passé une partie de ton été avec le Utah Jazz pendant leur préparation et tu vas nous raconter ça de l'intérieur. Juste en un mot, tu as dirigé les espoirs de l'ASVEL et de Limoges. Comment tu t'es retrouvé là-bas en fait cet été?
Les scouts américains ont besoin d'informations par rapport aux jeunes joueurs français. La France est une nation très très représentée en NBA, même si cette saison on en a 9, les autres saisons on en avait encore plus de joueurs français là-bas. Donc les scouts ont besoin d'informations, donc contactent les personnes qui peuvent leur en donner, comme les entraîneurs de centres de formation. Et à travers ça, j'ai eu des contacts avec donc les scouts européens, le directeur des opérations basket, et il m'avait invité pour le mini-camp, 32 joueurs au mois de juin pour faire partie du staff. Donc j'y suis allé. J'ai entraîné les joueurs de ce mini-camp et suite à ça, il y a eu l'opportunité d'aller voir ce que c'est un training camp NBA à Salt Lake City.
Donc du mini-camp, t'es passé au training camp où là, c'est la préparation, vraiment les derniers jours de préparation de la saison NBA dans une franchise ambitieuse, de qualité, puisque c'est la meilleure franchise de la dernière moitié de saison, la saison dernière. Donc il y a quand même un gros potentiel à Utah et notamment Rudy Gobert. Dis-nous un peu, Mehdi, quelle est sa place dans cette franchise?
C'est un joueur vraiment vraiment majeur. Lui, Donovan Mitchell, c'est les stars de la franchise. Le joueur le plus valorisé, c'est certainement Rudy Gobert à travers le trophée qu'il a eu l'été passé, Defensive Player of the Year. Quand
meilleur
on sait l'importance de la défense, Rudy Gobert, c'est peut-être aujourd'hui le pivot le plus dominant en NBA. Si on prend en considération son impact défensif, les Américains sont très tournés vers les stats avancées, et donc ça met encore plus en valeur ce qu'il est capable de faire en défense et des paniers à fort pourcentage en attaque, parce que c'est ce qu'ils recherchent pour eux. Donc
comment ça se traduit au quotidien dans l'équipe? Est-ce qu'il a le charisme d'un, je sais pas moi, à qui on pourrait le comparer, d'un Russell Westbrook, d'un Kevin Durant, pour parler des grandes méga stars de la NBA?
Oh, c'est quelqu'un.
C'est un garçon qui est plutôt discret. Enfin, c'est l'impression qu'il donne en tout cas.
Oui, c'est quelqu'un de plutôt à l'écoute, plutôt travailleur, qui est pas quelqu'un qui va beaucoup s'exprimer. Après, certainement qu'il a, il y a des moments dans la saison où il s'exprime beaucoup, mais on voit surtout Joe Ingles dans ce rôle-là un peu de...
C'est pas le leader de l'équipe, par exemple?
Certainement dans l'impact qu'il a sur l'équipe. Maintenant, sur le côté vocal, on entend beaucoup plus Joe Ingles.
Messieurs, Fred, Stephen, David, Steve, tu boutes toujours ou ça va mieux?
Je boute toujours, mais je vais faire le boulot jusqu'au bout. comment ça se passe? Raconte-nous les structures du Jazz, du Utah, les joueurs, les facilities, comme ils disent, la salle d'entraînement, qu'est-ce que c'est, le staff médical, ça se compose de quoi? Fais-nous rêver par rapport à des structures françaises.
Le camp entre le training camp, il commence le 25 septembre. On arrive donc dans les infrastructures. Donc il y a vraiment une partie qui est réservée aux joueurs, une partie qui est réservée plutôt aux dirigeants et aux coachs. Dans la partie réservée joueurs, ils ont un parking, et après il y a un flow, ce qu'ils appellent un flow. On rentre, on a accès tout de suite au lounge, après à l'endroit où ils peuvent manger.
Il y a Pietrus là-bas, non? Dans le flow.
Non, vas-y, pas vas-y. Vraiment.
C'est Stephen, c'est bon les gars.
Même si l'impact défensif leur aurait plu il y a quelques années, j'imagine. Et ensuite, tout est organisé pour que les joueurs aient rien à penser. Donc, il y a
cuisinier, repas et tout ça, non?
Cuisinier, évidemment, pour que la nourriture soit plutôt appropriée à un régime alimentaire pour un sportif. Il y a 7 assistants coach, il y a 3 player development, il y a un nombre de personnes qui sont là pour la vidéo, mais qui sont aussi présents pour les entraînements. Il y a 2 terrains côte à côte, finalement c'est ça, 2 terrains côte à côte, quelque chose de très fonctionnel. Moi, ce qui m'a sauté aux yeux, et quand je parlais du flow, c'est le côté ils ont essayé de penser à quel pouvait être le passage d'un joueur avant, après un entraînement, et il n'y a pas de détour. Donc on va tout de suite, ils franchissent les étapes les unes après les autres, après le vestiaire, la salle de soins, puis la salle de muscu, puis le terrain.
Qu'est-ce qui t'a le plus surpris, justement, si on compare avec le basket en France? Qu'est-ce qui est le plus étonnant?
Ça touche beaucoup à la personnalité, finalement, des personnes, non? Des Quinn Snyder, vraiment quelqu'un d'assez brillant, ultra diplômé, qui a fait Duke, qui a coaché à Missouri, qui a été assistant de Messina à Moscou, assistant NBA, donc un parcours plein, quelqu'un de très fin dans le management, très fin dans le jeu. C'est la première chose qui m'a surpris, au-delà des infrastructures, parce que j'en avais profité quand j'y étais au mois de juin, on était vraiment immergé avec eux dans le minicamp. Là, c'est vraiment, c'est très studieux. Ce qui saute aux yeux pour moi quand on voit Utah, et d'ailleurs c'est quand on les voit jouer, c'est cet aspect-là très studieux, et ça se rapproche beaucoup, beaucoup du basket européen, ce qu'on peut voir au Jazz.
Moi, je Snyder, le coach principal de Utah. Hein.
Je m'interrogeais alors sur ce dont tu parles, mais ça m'a toujours fait soit sourire, soit fantasmer. L'histoire des assistants coach, tu dis qu'il y en a 7, sans même compter ceux qui font le players development, qui suivent les joueurs un par un, les joueurs qu'il faut cibler, ou les mecs de la vidéo. Moi, un assistant, je vois ce qu'il peut apporter. 2 assistants, je vois ce qu'ils peuvent apporter. 3 assistants, je peux imaginer, je peux concevoir. 4 déjà, j'ai du mal. 5, ça devient compliqué. 6 et 7, mis à part vérifier si les citrons ils sont coupés dans le bon ordre, j'ai du mal à comprendre. Et alors, avant que tu m'expliques ce qu'ils font, et si tu me donnes des trucs très intéressants, je dirais ok. C'est marrant parce que je trouve que c'est tellement, tellement américain. J'ai pu fréquenter des chaînes américaines sur des grandes opérations, ESPN ou la chaîne qui faisait les JO à l'époque, je sais même plus laquelle c'était, ça devait être CBS. Ils sont archi staffés partout. C'est-à-dire que nous, pour prendre des trucs de télévision chez nous, un mec qui faisait des ralentis dans un car, il faisait 4 caméras à la fois. Les Ricains, il y avait 4 mecs. Et ils étaient sidérés de voir que les Français, ils disent « Waouh, mais toi, tu fais tout ça à la fois !» Et en fait, eux, même pareil, sur les assistants, il y avait un assistant réel qui faisait un truc particulier. Et donc là, j'aimerais savoir pour les coachs ce que ça fait. Est-ce que chacun a un périmètre qui est archi restreint et très très défini,
mais
ou est-ce que chacun fait tout?
Alors il y a chaque assistant en charge un joueur déjà. Donc Rudy Gobert, il va avoir un assistant qui est en charge de son développement individuel, qui prend du temps avec lui avant, après les entraînements, qui passe du temps pendant l'été à aller le rencontrer pendant les vacances pour faire du travail individuel. On a vu cet été, admettons, le coach des Knicks qui a passé du temps avec Porzingis en Lettonie pour la NBA. L'investissement, il est tellement astronomique que staffer un maximum pour avoir des gens qui puissent être responsables d'un joueur, passer du temps avec lui pendant la semaine à l'entraînement, pendant les vacances, d'aller l'entraîner pour préserver la relation, ça leur semble majeur. Et en lien avec leur contrat, finalement, l'investissement, il est mesuré. Donc le travail individuel, chaque joueur, donc Katsi Karis, il s'occupe d'un joueur, qui est un nouvel assistant européen qui est maintenant au Jazz, il s'occupe d'un joueur.
Katsi Karis, qu'on connaît,
à Bilbao, bien sûr.
Ah, il est maintenant, d'accord.
Et voilà, il fait du travail individuel, de la vidéo, il est en charge d'un domaine précis, donc il y en a un qui va être en charge de l'attaque, de la défense, du développement des extérieurs, des intérieurs.
Mais le coach sur un temps mort, il a besoin de combien de mecs autour de lui? Moi, je me suis toujours interrogé là-dessus. Combien de mecs peuvent lui apporter une info qui lui est utile pour gérer la minute qui va suivre?
Un temps mort NBA, déjà, c'est ce qui m'a surpris la plupart, à part 2 minutes 40.
Ouais.
Rien à voir avec les 1 minute qu'on peut avoir nous. Donc, ils ont le temps de discuter entre eux.
Ça tient 1 minute et puis après, parler aux
joueurs. Moi, en général, ça a 1 minute 40. Et puis, quand il reste 1 minute, il va démarrer le temps mort envers les joueurs. Donc, un plus sur la stratégie défensive, un plus sur la stratégie offensive, hein, qui va parler un peu plus du management des joueurs. Ils ont le temps pour ça. Ils veulent surtout pas manquer de personnes, d'avis objectifs, d'avis différents, et préserver la relation avec les joueurs.
On veut avoir dans le vestiaire du Utah Jazz avec Mehdi Marie. Je suis obligé de t'interrompre, Mehdi, même si c'est passionnant. Alors, est-ce qu'en 10 secondes, tu peux me donner un petit pronostic de la saison du Utah Jazz? Comment tu les vois?
Oh, je les vois
passé 3 semaines avec.
Je les vois premier à l'Ouest, certainement.
Ah, ouais, carrément.
Ah, carrément.
Toi, tu veux signer là-bas.
Il y a de l'affection, là, quand même.
Merci beaucoup, Mehdi.
À Los Angeles.
Pour le témoignage. Buzzer Time, c'est terminé. Rendez-vous la semaine prochaine, 21h, 22h30 sur RMC Sport 2. Tout à l'heure, bien sûr. Mais en attendant, c'est le retour du Foot Lafter avec Nicolas Villas. Salut, Nico.
Bonsoir.
Ça va, Nicolas.
Déconne,
on y va,
ça va,
les mecs?
Ça va, toi? Ouais, on vous attend avec Daniel Riolo et Pierre Ducrot pour une émission sous le signe de la déconnade, bien entendu, les avis de l'after. Non, semaine européenne, très important, semaine de Ligue des Champions, on sera avec les drôles de dames. Et bien entendu, on va déjà se lancer dans cette semaine de Champions League avec un avis tranché de Daniel Riolo. Il faut sauver Cavani. Tu kiffes ça, toi, Pierre?
Bah, surtout que je kiffe Cavani et que je kiffe Daniel aussi. Je te kiffe, toi, je vous kiffe tous.
Everybody's kiffing. à tout de suite, je sais pas le dire en anglais.